On va commencer d'abord par la lumière inaccessible. Et on peut dire que tout ce que nous avons médité, on ne va pas se mettre, se mettre un coup de revolver dans les pieds, mais enfin, c'est un peu ça quand même, quoi. Malgré toute la connaissance de la lumière créée qui nous est donnée, eh ben, faut voir les limites. Les limites dans lesquelles nous sommes aujourd'hui insérés, c'est-à-dire une connaissance humaine qui est très limitée. Nous sommes sur un chemin du sens dont on voit à l'instant que ça ne donne peut-être pas... Est-ce que vraiment il peut être perturbé aussi, lui, hein? Bon, voilà. Et puis, seulement ce que nous avons vu, c'est à l'instant même, en quittant, c'est que les témoins, nous sommes, comme disent les Hébreux encore, environnés d'une multitude de témoins qui nous aident à cheminer. Et ça, pour notre vie spirituelle, qui est l'important, là, pour la connaissance, eh ben, c'est quand même la communion des saints. Hein. C'est tous ceux-là qui ont parcouru des chemins, comme nous a dit Jean, de Saint Jean de la Croix, et qui nous apportent le résultat de leur perception, de leur connaissance, etc. Donc on a tout cela. Et en même temps, nous recevons une parole révélée en 1 Timothée 6, 16. Dieu habite une lumière inaccessible. Le bienheureux et unique souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul d'entre les hommes n'a vu ni ne peut voir, à lui appartiennent l'honneur, la gloire et la puissance à jamais. Il s'agit d'une lumière invisible aux hommes, non seulement invisible, mais inaccessible en elle-même, dont l'existence simplement nous est dite, hein, par cette parole. Effectivement, Dieu habite une lumière, mais une lumière inaccessible. Alors, quel est donc ce mystère de cette lumière inaccessible? Et qui, en même temps, illumine le monde, illumine notre esprit pour nous accéder à la connaissance. Si la lumière divine était accessible, ben, moi je pense que ce serait une lumière à l'image de celle que nous connaissons de ce monde, et sa lumière conditionnerait le nôtre. Le monde que nous recevrions là, comme d'une lumière divine, eh ben, on pourrait le contempler. Donc en fait, on serait dans un monde divin, hein, si la lumière illuminait tout, d'une lumière divine. Bon, c'est une réflexion que je fais, puis peut-être vous verrez que ça a des limites, hein, mais moi je donne une réflexion comme ça. Hein. Si le monde serait divin, il serait peut-être plus grand que le nôtre, ce serait quand même une réalité, quelle qu'elle soit, ce serait quand même dans l'étendue du monde, il y aurait donc cette présence qui illuminerait donc ce monde. Et l'histoire humaine s'écrirait à l'intérieur de cette aventure, qui aurait des contours assez précis, même si c'était très large. De toute façon, ce serait à l'intérieur de ce monde-là, illuminé par cette connaissance, par cette lumière. Platon appelait ça le monde noétique, qui était connaissant par la raison. Et dans ce monde, il y aurait d'autres êtres, des puissances cosmiques, qui seraient revêtues aussi de cette lumière. Et en contemplant alors ce monde, on contemplerait Dieu lui-même. Voilà. Et il serait alors cette lumière qui se répand dans toutes choses, sous la voûte céleste qui illumine. Tout ça serait translucide, paré des feux de toutes sortes. Ce serait un spectacle merveilleux. Et ça pourrait réjouir les créatures qui le contempleraient. D'une certaine façon, nous serions alors des fils de Dieu dans une espèce de fusion là, avec lui, là, dans ce monde. Là. Eh bien, cette vision peut-être émerveiller des gens, peut-être, ou nous émerveiller. mais elle ne rend pas compte de la vérité. Elle ne rend pas compte de la vérité. Car Dieu a créé des hommes à son image et lui-même habite une lumière transcendantale qui empêche de s'enliser dans un cosmos fermé, quel qu'il soit. La lumière, alors, qui est la vraie lumière, selon la vérité, c'est une lumière qui est inaccessible. C'est-à-dire, c'est celle, en fait, de la Sainte Trinité, dont le fond est la Sainte Trinité. Et c'est cette lumière-là qui justifie la contemplation joyeuse, merveilleuse de la lumière, son rayonnement qui réchauffe. Ce n'est pas ce monde noétique, ce ne serait pas ce monde-là, clos mais illuminé par une lumière. C'est tout à fait autre chose. C'est une lumière inaccessible dont la source nous est... C'est un bonheur qu'elle soit inaccessible pour nous. Parce que si elle ne l'était pas, ce serait fini. On aurait la connaissance, ce serait terminé. Un jour, si on arriverait peut-être à faire le tour du monde, quoi, puis on aurait tout vu, on aurait tout connu. Non, la lumière est inaccessible. Elle sera toujours inaccessible. Et c'est à ce niveau-là qu'elle permet une connaissance, une montée progressive dans la gloire. Et saint Grégoire de Nice nous dit que c'est un chemin qui ne finira pas, parce que on touche à quelque chose, en entrant dans une lumière inaccessible, il sera toujours devant nous. Une lumière de la connaissance qui n'en finira pas. Un monde de l'amour qui n'aura pas de fin. On serait tout le temps en train de grimper, de monter sur une échelle qui n'en finit pas de monter jusqu'aux cieux. C'est ce monde-là qui nous attend. Parce que celui qui nous a créés est Dieu qui habite une lumière inaccessible. Et dans cette lumière inaccessible, c'est là que vivent aussi d'autres êtres qui reçoivent aussi cette réalité d'une connaissance supérieure. Sont-ils supérieurs à nous par la connaissance que nous prenons? Moi, je pense certainement, quoi, d'une certaine façon. Ils vivent dans une réalité qui n'est pas la nôtre, hein, parce qu'ils vivent quand même dans le monde divin, dans un monde divin, qui n'est pas le monde de la divinité, mais qui est un reflet du monde de la divinité. Mais à un autre niveau, à un autre degré, c'est pourquoi c'est important. Et saint Grégoire de Nice dit qu'en fait, celui qui commence à s'occuper des réalités angéliques, celui-là est entré dans la deuxième voie de la connaissance. Il nage avec les anges, alors on va voir ça, il est la connaissance du monde angélique et le propre de la voie, de la deuxième voie que nous étudions, celle de la connaissance qui nous fait sortir des réalités terrestres de la première voie et qui nous conduit donc aux réalités supérieures du monde d'en haut. Et alors, nous participons déjà par notre être christifié d'entrer dans la compagnie des mondes angéliques. Alors, la réalité, c'est la réalité. La réalité, c'est l'Eucharistie. La preuve que nous participons de cette communion, de cette entrée dans le monde divin par la connaissance qui nous est donnée, si vous voulez, d'un seul coup en nous s'écarte un rideau, hein, qui nous empêchait de voir le monde angélique, et par la grâce qui nous est donnée dans cette deuxième voie, le rideau s'ouvre. Et nous restons dans l'invisible, mais nous voyons le visible. Nous voyons l'invisible à travers le visible. Le rideau s'est ouvert. Alors, quelle est la contemplation que nous en faisons? Eh bien, c'est la contemplation du monde angélique. Et nous comprenons que, en fait, nous avons des partenaires, nous ne sommes pas les seuls à participer de cette lumière qui donne la connaissance divine. Et alors, nous participons avec d'autres dans cette lumière éternelle que Dieu nous donne. Et c'est la grâce angélique. Nous recevons la grâce angélique. Saint Augustin lui-même refère les lumières du firmament aux anges. Alors d'abord, simplement pour dire que ce monde existe réellement, Saint Augustin écrit « Les anges sont la lumière qui reçut le nom de jour. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, il s'agit bien de la création des anges. Ils ont donc été faits participants de la lumière éternelle, qui est la sagesse de Dieu en personne, sagesse immuable, par qui toutes choses ont été faites. Hein, nous retrouvons là, en ce moment, le mystère de la sagesse. On finira pas par se heurter à ce mystère. Et alors, et que nous appelons donc, qui fait de nous des fils de Dieu, illuminés par cette lumière qui a créé les anges, et qui ont été faits lumière, lumière du jour immuable, et qui en fait l'expression même du Christ, lumière du monde. C'est, on va dire par un mot, quoi, peut-être, bon, qui n'est pas ça, mais qui donne une idée. C'est, ils sont chers de la chair du Christ. Du Christ lui-même, lumière, ils sont lumière, nés de la lumière. Vrai Dieu, nés du vrai Dieu, ils font partie, ils sont nés de lumière. Par contre, ce sont des êtres créés. Quel est le propre de l'être créé par rapport à Dieu? C'est que nous avons une définition, pour nous c'est le corps. C'est-à-dire que moi je ne suis pas là, je suis là. C'est mon corps qui me limite. Et qui me. Et je suis là. Dieu, lui, n'a pas de corps. Alors, il est là, il est là, il est là. Les anges, est-ce qu'ils ont un corps? Alors, on a dit. Ça, c'est, il y a eu des réflexions pas mal là-dessus. Hein. Mais, à mon avis, ils ont un corps. Ils ont un corps angélique. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas une limitation d'eux-mêmes, le corps, c'est la limitation. Et alors, s'ils n'avaient pas les limitations, ils seraient Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limitation de son être. Donc, ils ont une certaine grandeur, hein, la grandeur angélique, mais ils sont spécifiés selon leur importance, leur grandeur, leur majesté. Alors, nous avons les cœurs des anges, nous avons des anges supérieurs, nous avons des anges inférieurs, nous avons. Donc, et là, progressivement, on a établi une hiérarchie angélique. Tous ces êtres sont des lumières venues de la lumière, nées de la lumière. Nées de la lumière, parce que Dieu est lumière, parce que le Christ est lumière. Nées de la connaissance aussi. Hein, ils ont une connaissance extraordinaire, parce que la connaissance, quelle est-elle pour eux? C'est ce qu'elle sera pour nous-mêmes. Elle est adoration. Connaître, c'est adorer. Hein? Quand on pense à ça, connaître, si je connais Dieu, dans l'acte même que je connais, j'adore. Je vois Dieu, j'adore. La connaissance ne peut pas être autre chose qu'une contemplation. Et nous verrons ça cet après-midi. C'est le retour. Et nous-mêmes, nous faisons un retour à la communion angélique. Le péché a détruit en nous cette communion. Il n'a pas détruit complètement, mais quand il y a la fameuse parabole interprétée par les pères de l'Église, la parabole de la brebis perdue, le Christ prend la brebis, là, et puis la ramène. Qu'est-ce que c'est que cette brebis? Et selon les pères de l'Église, c'est l'humanité. C'est la brebis humanité. Et il va l'emmener pour la déposer chez les anges. Et les anges se réjouissent, ils ont retrouvé leurs frères. Et nous-mêmes, on a retrouvé nos frères. Et quand est-ce que nous les retrouvons? C'est l'Eucharistie. Si nous n'avions pas l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on aurait de connaissance? Dans l'Eucharistie, nous compte. Et c'est pour ça que l'Eucharistie, il faudra faire une réflexion. L'Eucharistie est d'une importance extraordinaire. C'est le monde angélique qui descend sur la terre, qui descend à ce moment-là, avec toute sa gloire, etc., qui entoure le Christ de toute sa gloire. Quand je rentre dans le sanctuaire chez nous, là, chaque fois je fais un effort, un effort d'imagination, puisque là, qu'est-ce que vous voulez, moi, je ne le vois pas, mais j'en suis sûr. Je fais un effort d'imagination, je vois les anges autour de l'autel, je vois la multitude, et au moment où le Christ est là, je vois les anges, voilà. La multitude angélique est là, elle est là. C'est le monde divin qui vient sur la terre. Et tout ça, ce n'est pas des visions. C'est les pères de l'Église, c'est combien d'auteurs spirituels qui nous disent cela. Ce n'est pas une vision que j'ai fait, que j'ai trouvée par moi-même. C'est une tradition. C'est une connaissance qui a été donnée dans l'humanité à certains qui ont pas cessé d'exprimer tout cela, quoi. Depuis la peinture, depuis... c'est joli, là, Frangelico, là, avec les anges qui dansent, là, comme ça, c'est merveilleux, hein, c'est... Maman avait fait un jour que j'étais à la Thébaïde avec elle, il y avait un moment que ma maman était avec moi, et alors, elle était là, et je dormais à côté de son lit, je dormais à côté d'elle, parce que je voulais pour la surveiller un peu, et puis, bon, tout d'un coup, dans la nuit, elle me dit, Jean-Claude Alors je lui dis, mais je pense qu'elle a fait un cauchemar. Alors, je lui dis, ça va, tu veux qu'on mette la lumière? Oui, alors on met la lumière. Bon, très bien. Et puis j'attends un petit moment, puis ça se calme. Et puis je lui dis, ça va maintenant? Oui, ça va. Bon, on éteint la lumière. Voilà, bon, très bien. Le lendemain matin, on se réveille. Prends un petit déjeuner, puis tout d'un coup je dis, mais qu'est-ce que tu as eu donc cette nuit-là que tu as eu peur, comme ça que tu as crié? Oh, mais non, j'ai pas eu peur. C'est qu'il y avait des anges qui venaient et qui se tenaient par la main. Combien de personnes ont été favorisées par les anges? Je pourrais vous raconter tout un tas de trucs. Une des choses les plus étonnantes, peut-être encore, puisque c'est en une minute. C'est le père Pouget, qui était du début de ce siècle, je crois, et qui vivait avec son ange gardien. Lui, c'était son ange gardien. Et il était un jour à Issy-les-Moulineaux, au moment où les ouvriers descendaient. À l'époque, ils descendaient en vélo. Il y avait tout un temps d'ouvriers qui descendaient en vélo. Lui, il était là. Il marchait, Pouget marchait avec son ange, puis tout d'un coup, il y a un ouvrier qui vient envoyer, un cycliste qui arrive et qui, bouf, automatiquement, rentre dans Pouget, dans ce bonhomme. Et puis tout d'un coup, le bonhomme se trouve à 10 mètres plus loin, il s'arrête, il dit, écoutez, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'étais en train de rentrer dans un curé. Et Pouget a expliqué, il dit voilà, pouf, l'ange d'un seul coup a fait le truc. Et ils se sont retrouvés tous les deux en continuant la conversation. Le monde angélique, voilà le monde angélique dans ces réalités. Mais vous pouvez raconter chacun de vous tout un tas d'histoires que vous avez vécues vous-même, avec des anges gardiens, l'ange gardien qui puisque maintenant, la communion est rétablie par le Christ. Chose qui ne l'était pas auparavant. Puisque le péché nous avait sortis de la communion. de la communion angélique. Et le bon et Jésus nous prend la brebis humanité pour la remettre. Et Saint Grégoire de Nyse disait que les premiers hommes dansaient mêlés aux cœurs angéliques. Et cette vie a été perdue par le péché. Au lieu de la vie avec les anges, nous avons été condamnés à vivre avec les bêtes. Monsieur. Nous avons été condamnés, l'œuvre du Christ a été de prendre sur ses épaules la brebis perdue. Et chaque vie contemplative réalise individuellement ce retour qui s'accomplit par le Christ à l'ascension. Mais ce ne sera qu'à la fin des temps que toute l'humanité sera réintégrée dans la communion angélique. Et ce retour se fait pour Grégoire et Augustin par une ascension, par le chemin que le Christ a pris pour revenir vers le Père. Alors ça c'est vraiment le mystère de l'ascension, que peut-être, on célèbre sans trop y apporter trop d'importance. Alors voilà ce que dit saint Augustin. Il a décrit une ascension céleste dans ses confessions, par une extase qu'il a vécue à Ostie. Vous trouvez ça dans les confidences là, de saint Augustin. Voilà ce qu'il écrit. Nous élevant d'un élan ardent vers l'être lui-même, nous parcoururent degré par degré toutes les choses temporelles, le ciel lui-même, le soleil et la lune, les étoiles qui répandent leur clarté, et nous montions, méditant, célébrant, admirant vos œuvres au-dedans de nous-mêmes. Et donc une vision intérieure. Et nous parvînmes jusqu'à cette région d'éternelle abondance où vous rassasiez éternellement Israël. Là, il a décrit trois étapes. La première qui s'élève au-dessus des réalités matérielles et cosmiques. C'est-à-dire, dans notre ascension, nous dépassons ce que nous avons dit tout à l'heure, hein, une connaissance sensible, la connaissance du monde sensible, bon, rationnel. La seconde, qui est la contemplation rationnelle, on l'a dit aussi, par les sens charnels. Et ensuite, nous allons à une réalité supérieure. Mais c'est l'acte de foi que nous faisons tous, hein. Même si on n'y met pas ces mots. Ben oui, on n'y met pas les mots, mais on le vit. Et nous arrivons au monde des réalités supérieures par la foi qui voit l'invisible, qui nous permet de comprendre la parole, de célébrer la gloire de Dieu, qui voit l'invisible dans le visible. C'est notre vie tous les jours, c'est notre vie chrétienne, pas plus. L'ascension a-t-elle le but désiré de l'union à Dieu? Alors, c'est là que se pose cette question de la relativité. Quand on a fait tout ce travail, on se dit, mon Dieu, pourquoi on l'a fait? Parce que de toute façon, on ne va pas plus loin. Mais c'est déjà pas mal de penser que ça existe. Seulement, on n'entre pas dans la cité céleste. Eux, c'est eux qui viennent nous visiter au moment de l'incarnation, au moment de la célébration. Mais nous, on est là. Hein. Et on ne les voit pas non plus, mais eux nous voient. Donc, on vit de foi et pas de vision. Mais, c'est là que, une fois de plus, on retrouve de tout à l'heure ce qu'on disait, la lumière inaccessible. Alors, Grégoire écrit cette belle phrase. L'âme entrée dans le monde des anges, il cherche son bien-aimé. Elle ne le trouve pas. Elle pose la question aux anges. Et si les anges connaissaient le bien-aimé d'une connaissance amoureuse qui étreint l'objet recherché, Elle lui demande s'il connaissait vraiment le bien-aimé. Et qu'est-ce que les anges disent? Non, on ne le connaît pas. Il habite, il est encore au-delà. Que c'est merveilleux, ça. Les anges aussi ne peuvent pas. Ils sont dans une admiration. Ils ont la connaissance. Ils ont la connaissance qui porte le goût aussi. Mais Dieu est au-delà encore. Et il sera toujours au-delà, éternellement au-delà. Ça veut dire que la vie éternelle nous est donnée. Elle n'aura pas de fin. Terrible constat de la connaissance. Une fois de plus, la grandeur de la connaissance a été de nous mettre juste devant les portes célestes. Mais ça ne peut pas aller plus loin. Saint Paul lui-même avait traversé trois cieux, vous vous souvenez? Je connais un homme qui, dans le Christ, voici 14 ans, était-ce en son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et cet homme, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au paradis où il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. 2 Corinthiens 12, 2. Donc, Paul a bien traversé des cieux avant d'arriver au paradis du troisième ciel. La tradition juive distinguait 7 cieux. Le premier étant notre atmosphère, le deuxième celui des astres, le troisième où Dieu est vu tel qu'il est en lui-même. Alors on a essayé de... Oui, ils en ont fait 3, on en a fait 7. Ça dépend des traditions, ça dépend des réflexions pour essayer de dire qu'il faut parcourir tout ça pour l'échelle de Jacob hein, qui monte jusqu'aux cieux hein, dans Saint Jean. Avec les anges qui descendent et d'autres qui montent.
Les demeures,
voilà, exactement. Les 7 demeures de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, la Grande Thérèse. Les demeures, il y a... On pourrait faire aussi, c'est Origène qui a fait quelque chose aussi très, très intéressant. En lisant la parole de l'Ancien Testament, il a pu faire on peut en faire jusque 12 étapes. Tout ça, c'est des réflexions hein, qui se font à partir de la parole. Mais en disant les trois, c'est important quand même, ces trois cieux dont parle Saint Paul, puisqu'il nous laisse quand même comme une vision qui est authentifiée, au moins par l'Église, quoi, puisqu'elle est dans la parole. Voilà, mais alors, ces cieux qui mènent par différentes étapes. Où donc est cette société? Où donc est cette cité angélique qu'on désire, pour laquelle on est appelé à connaître et à participer éternellement avec eux, avec des anges. Et les anges, certainement, le Seigneur nous donne certainement souvent les anges qui nous entourent. Mais on ne les voit pas. Et alors, quelle est donc cette société angélique? Où est-il? Bien, de toute façon, on peut le situer que dans le corps du Christ, de toute façon. Au moins, on a une réponse sûre, c'est que le monde angélique est dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce que le corps du Christ est la plénitude de la divinité, il est la plénitude du créé, tout a été créé par lui, en lui, pour lui, il est la plénitude absolue de l'être. Il n'y a rien qui ne soit en dehors du corps du Christ. Il est la plénitude de tous les existants et de toutes les choses existantes. Le corps du Christ est l'absolu de la création. Le Père a tout créé dans le Christ. Tout ce qui a été créé. Alors on verra aussi, peut-être cet après-midi, c'est que tout créé, ça veut dire qu'il a mis des semences d'intelligibilité et de connaissance dans le corps du Christ, et à nous de les cultiver, de les sortir comme on sort en ce moment, des navets qu'on a plantés dans ce corps du Christ pour sortir des connaissances diverses, etc. Mais tout est dans le Christ. Et les anges sont aussi dans le Christ. Ils ont une autre cité à eux, la cité angélique. Et c'est là c'est avec eux qu'on va célébrer éternellement, mais on le fait déjà sur la terre, avec l'Eucharistie. C'est pourquoi l'Eucharistie, c'est pas une célébration terrestre, l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'on nous chante quand on fausse complètement ce monde divin. C'est la participation avec les puissances célestes pour dire la gloire de Dieu. Il n'y a qu'un corps, il n'y a qu'une gloire, il n'y a qu'un Dieu. L'œuvre du Christ n'a pas été donc uniquement, elle a été de ramener l'humanité, mais de faire un monde nouveau. Et c'est la dernière parole de l'Apocalypse, « Voici que je fais toute chose nouvelle ». Cette chose nouvelle, c'est la communion rétablie d'entre notre monde avec les anges. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, quand vous vivez dans la conscience et dans la prière avec le monde angélique, avec les anges, que ce soit les anges gardiens, que ce soit les autres anges, quand vous priez Saint-Michel-Archange. D'ailleurs, à ce niveau de Saint-Michel-Archange, j'avais apporté des prières, je ne sais plus où je les ai mises, hein, parce qu'à la fin de chaque Eucharistie, pour nous, nous redisons la prière de Saint-Michel-Archange que disait le pape Léon XIII, et qui malheureusement a été ensuite interdite, quoi. Enfin, ça n'a pas été repris.
On le dit à la fin de chaque
heure
Eucharistie, là, notre nouveau prêtre, il le dit.
Il y en a très peu, mais vous avez de la chance, parce qu'il y en a très très peu qui disent à la fin de l'Eucharistie la prière. Vous savez comment ça s'est passé là pour Léon XIII, c'est quand il avait dit sa messe à un moment donné, et puis il a eu une vision, et il a entendu une conversation qui s'était faite et qui était sortie du tabernacle entre Jésus et Satan. Et Satan disait à Jésus, je vais détruire ton monde, ton église. Et la parole dit que Jésus aurait répliqué, fais-le. C'est étrange, hein, cette parole. Et alors, à ce moment-là, Léon XIII, qui a entendu cela, s'en va d'un seul coup, c'était la fin de sa messe, il monte chez lui, et puis il écrit, et il a écrit l'exorcisme de Saint-Michel-Archange. C'est comme ça qu'est né l'exorcisme de Saint-Michel-Archange. Et extraordinairement, c'est ce qui arrive, hein, la destruction de l'Église. Et pourquoi la destruction de l'Église aussi, et pourquoi il n'y a pas assez de remparts? C'est parce qu'on a... Ça, j'ai jamais compris pourquoi même certains évêques ont interdit la prière de l'exorcisme de Léon XIII. C'est depuis Vatican II que ça n'existe plus. Alors que c'était une force de rempart contre les puissances célestes. Et je trouve que s'il y a les grosses difficultés de l'Église, c'est parce que nous avons abandonné aussi cette prière. Les anges sont tous là, Saint-Michel-Archange aussi. Mais c'est autre chose quand tout un peuple prie Saint-Michel-Archange et qu'il apporte la force de la force du combat contre Satan. L'Église, à ce point de vue-là, moi, me pose des questions. Donc, c'est un univers qui a été rassemblé autour de la Seigneurie du Christ. que c'est par le baptême que nous y entrons, par l'ascension. Nous prenons le chemin de l'ascension d'étape en étape, de connaissance en connaissance, pour arriver jusqu'à la cité céleste. Et il nous est donné par grâce déjà de pouvoir être environné de tous ces anges. Déjà, d'une certaine façon, la cité céleste, quand nous entrons dans l'Eucharistie, puisqu'elle est la participation du ciel sur la terre.